petites annonces. D'abord, au niveau des retraites, je rappelle que le calendrier des retraites 2019 a été publié. Vous en avez fait à l'entrée de la chapelle. La retraite de Pâques est déjà pleine, donc je ne peux prendre personne pour cette retraite de 6 jours. Par contre, il y a de la place dans toutes les autres retraites. Aussi, j'ai changé les jours des cours. Donc, le cours sur l'exégèse d'après les pères de l'Église aura lieu au lieu du mardi, le mercredi, donc à 7h30 le soir. Et le cours sur l'explication de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin aura lieu au lieu du jeudi, le vendredi, à 7h30 le soir aussi. Donc, c'est mis sur Internet à peu près vers 21h le mercredi soir et le vendredi soir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, dans l'évangile du jour, fait un grand miracle. Voilà un paralytique qui lui est présenté. Il est porté par quatre porteurs sur un grabat. On dépose le grabat sous les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ pour demander à notre Seigneur Jésus-Christ de guérir cette maladie. Et notre Seigneur Jésus-Christ va s'occuper pas simplement du corps, il va s'occuper de l'âme. Et il va enlever les péchés de cet homme. Et pour montrer qu'il est pas simplement maître, qu'il est pas simplement maître des âmes, il est maître aussi des corps, il va aussi guérir le corps. Guérissant le corps, les témoins vont voir la guérison du corps et vont croire à ce moment-là qu'il a aussi guéri l'âme. Parce que la guérison de l'âme, quelque chose qui ne se voit pas. Alors voyons un petit peu ce qu'en disent les pères. Donc je m'excuse pour ceux qui ont déjà assisté à cette explication, parce qu'on a expliqué cet évangile au cours d'exégèse il y a 15 jours. Je reprends un petit peu ce que disent les pères. Plusieurs choses importantes dans ce que disent les pères sur l'évangile du jour. Première question, notre Seigneur est dans sa ville. Un terme, c'est un peu spécial dans l'évangile, on peut se demander, mais pourquoi, quelle est la ville de notre Seigneur? Quand on pose aux fidèles la question « Quelle est la ville de notre Seigneur Jésus-Christ? », ils répondent toujours « Ou Nazareth ou Bethléem. » La ville de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Capharnaüm. Notre Seigneur Jésus-Christ est né à Bethléem, a vécu son enfance, passé son enfance à Nazareth, mais après avoir commencé sa vie publique pendant 3 ans, il va passer ces 3 années avec comme base la ville de Capharnaüm. L'Église ne sait pas, l'Évangile n'en dit rien. L'Église ne sait pas, n'enseigne rien du tout sur la raison pour laquelle notre Seigneur a choisi Capharnaüm comme ville, comme sa ville. Peut-être qu'il avait là des gens qui connaissaient davantage, peut-être qu'il avait des gens qui le recevaient, lui et les apôtres, plus facilement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était sa ville. La première question qu'il faut se poser, c'est que cette ville, choisie par notre Seigneur Jésus-Christ, aimée par notre Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ aimait aller, c'est aussi symbole de notre âme. Donc, on peut se poser la question toute simple, est-ce que notre âme est aimée par notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il doit venir dans notre âme, doit se dire, peut se dire, j'aime cette âme, j'aime venir ici parce que j'y suis bien accueilli, parce que la maison est toujours propre et bien organisée, alors j'aime bien venir dans cette âme et y rester, y demeurer. Ou est-ce qu'au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ se dit, à chaque fois qu'on le reçoit dans notre âme, par la Sainte Communion, encore je viens dans cette âme qui est toute seule et qui n'aime pas me recevoir. Donc la ville de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le symbole de notre âme. Est-ce que mon âme est préparée à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je purifie régulièrement mon âme par le sacrement de pénitence, justement pour pouvoir le recevoir, l'accueillir et le garder en mon âme à chaque fois qu'il y vient, que son corps, son sang, son âme et sa divinité par la Sainte Eucharistie? Et on peut ensuite expliquer plus facilement, à partir de cela, justement, ce qui va se passer dans l'âme de ce paralytique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, de la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ aime venir dans une âme qui est bien préparée, qui est propre pour le recevoir, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas venir dans l'âme de ce paralytique sans d'abord, évidemment, sans d'abord préparer l'âme de ce paralytique, sans d'abord purifier l'âme de ce paralytique. C'est pour ça qu'il va dire à cette personne, vos péchés sont pardonnés. Alors, plusieurs choses à remarquer dans les différents termes utilisés par l'évangéliste d'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui. D'abord, notre Seigneur Jésus-Christ va arriver avec une barque. La barque a toujours été le symbole de l'Église. Remarquons que notre Seigneur Jésus-Christ vient sur une petite barque, il ne vient pas sur un gros paquebot. Il vient sur une petite barque qui, humainement parlant, est toute frêle. On a l'impression que la barque utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois qu'il doit traverser le lac, à chaque fois qu'il prêche sur... il aimait prêcher le long du lac, les gens étaient assis sur l'herbe autour du lac, et lui prêchait dans la barque pour que les gens l'entendent bien. Et on a l'impression que cette barque est bien trop frêle pour lutter contre les éléments, pour lutter contre la tempête, pour lutter contre les vagues. Eh bien, cette barque représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Humainement parlant, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ est extrêmement fragile. On pourrait se demander, mais comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il accepté d'unir sa divinité, parce qu'il est Dieu, avec une humanité qui est tellement frêle? Eh bien, dans cette barque qui représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité cachée dans cette barque. Rappelez-vous l'explication de la tempête apaisée. Notre Seigneur Jésus-Christ est avec les apôtres, une grande tempête qui se lève, les vagues passent par-dessus bord, tout le monde panique à bord. Notre Seigneur Jésus-Christ dort, la tête sur un coussin au fond de la barque. Donc ça représente justement, la barque représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ caché dans cette barque. Et c'est ce qu'il faut vérifier dans notre barque. Cette barque, ce n'est pas simplement notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi la représentation de notre âme. Notre âme, c'est la même chose. Notre âme est comme une barque. On a l'impression que notre âme est beaucoup trop fragile et qu'elle est ballottée par toutes les circonstances extérieures qui font qu'on a bien du mal à garder la paix intérieure. Dans notre barque, si nous sommes en état de grâce, notre Seigneur Jésus-Christ demeure. Et si notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans la barque, alors nous n'avons rien à craindre. La barque est aussi, bien sûr, vous le savez, le symbole de l'Église catholique, la barque de Saint-Pierre. Humainement parlant, c'est la même chose. Cette Église catholique, humainement parlant, bien fragile, bien faible, est composée d'éléments humains qui sont des pauvres pécheurs comme vous et moi. Mais à l'intérieur de cette barque, cachée dans cette barque, notre Seigneur Jésus-Christ vit. L'Église catholique est humaine et divine. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va arriver, il va donc commencer à prêcher dans la ville de Capharnaüm, et là, un paralytique lui est présenté. Alors les pères se posent la question, qu'est-ce que représente ce paralytique? Eh bien, vous savez que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va guérir une maladie, la maladie représente une autre chose, c'est toujours la même chose qui est cachée derrière, l'explication symbolique de l'évangile. La paralysie représente certaines choses, de même que la lèpre représentait certaines choses. La lèpre représentait le péché mortel, j'ai déjà expliqué souvent. La paralysie ici, c'est très intéressant, tous les pères de l'Église pratiquement disent la même chose. La paralysie du corps représente la paralysie de l'âme. Et la paralysie de l'âme, c'est le fait que beaucoup d'âmes ont une fatigue, je dirais. Fatigue, un découragement concernant la vie spirituelle. La paralysie, disent les pères de l'Église, représente l'acédie de l'âme. L'acédie, c'est un mot français qui est très peu utilisé. L'acédie, c'est une espèce de paresse, un dégoût des choses spirituelles. Donc la paralysie de ce paralytique représente le dégoût des choses spirituelles. Et les pères de l'Église associent ce dégoût des choses spirituelles à la paralysie parce que le dégoût des choses spirituelles va entraîner le fait que cette âme ne va plus pouvoir par elle-même, par ses propres forces, aller devant notre Seigneur Jésus-Christ. Il va falloir qu'elle soit portée, comme le paralytique est porté par ses amis qui l'amènent, quatre porteurs qui amènent le lit de douleur de ce pauvre homme devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est une circonstance qu'il faut particulièrement surveiller dans notre âme. Est-ce que j'ai un dégoût des choses spirituelles? Est-ce que je suis tout de suite paresseux dès qu'il faut étudier notre catéchisme, dès qu'il faut étudier les choses qui sont en relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa Sainte Église? Et quand on analyse un petit peu ce qui s'est passé tout au long des années 1950 en France, en Europe en général, mais surtout en France, je pense que c'est ça. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, les gens pensaient qu'une seule chose, c'est emmagasiner le plus de choses, jouir au maximum de la paix qui était de nouveau instituée en France, au moins extérieurement. Et donc, ils ont complètement délaissé les choses spirituelles. Les sacrements, la prière, le catéchisme, on n'a plus le temps pour ça. Il faut s'occuper de choses bien plus importantes, à savoir amasser de l'argent. Et lentement, ils sont en eux cette espèce de découragement des choses spirituelles, de dégoût des choses spirituelles. Imaginez un corps qui a le dégoût de la nourriture. Il n'a plus envie de manger. Qu'est-ce qui va se passer? Ce corps va mourir, va devenir de plus en plus faible, puis mourir. C'est la même chose pour une âme. Si une âme est frappée de cette paralysie spirituelle qui consiste à avoir ce dégoût des choses spirituelles, comment voulez-vous que cette âme survive? Et c'est exactement ce qui s'est passé. On voit très bien, les gens sont tombés sur un dégoût des choses spirituelles, et les choses spirituelles sont considérées comme des choses tout à fait secondaires, sans importance, on n'a pas trop s'en occuper. Alors à ce moment-là, nos âmes deviennent de plus en plus faibles et finissent par mourir. Et les pères vont plus loin en disant que ce lit de douleur sur lequel est porté le paralytique représente la cause de ce dégoût des choses spirituelles. C'est très intéressant de voir que pratiquement tous les pères de l'Église disent la même chose. Ce dégoût des choses spirituelles est causé par tous les péchés de sensualité, tous les péchés d'impureté. Donc les démons mettent dans les âmes, couvrent les âmes, si vous voulez, de péchés de sensualité, de péchés d'impureté, pour que le péché d'impureté empêche l'intelligence de s'occuper des choses importantes. Donc tous les péchés de vanité, les péchés de sensualité, les péchés d'impureté ont comme conséquence, disent les pères de l'Église, le dégoût des choses spirituelles. Ça explique très bien pourquoi. Dans le monde moderne, le démon justement travaille pour, en quelque sorte, envelopper les gens, surtout les catholiques, dans une atmosphère générale d'impureté qui empêche l'âme frappée par l'impureté, qui vit habituellement dans l'impureté, de s'occuper des choses spirituelles. Cela entraîne cette assédie spirituelle, ce dégoût des choses spirituelles, et elle ne peut plus s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir d'abord aux choses importantes, c'est-à-dire nettoyer notre âme régulièrement par le sacrement de pénitence. À ce moment-là, notre intelligence va pouvoir se développer. On va pouvoir lutter contre ce dégoût des choses spirituelles, recommencer à étudier notre catéchisme, recommencer à étudier toutes les choses relatives à l'Église catholique, à notre Seigneur Jésus-Christ, pour justement nourrir notre âme et que notre âme retrouve sa force. Et ce dégoût des choses spirituelles se voit très très bien encore une fois autour des années 50-60. Je donne quelques exemples, donc ils sont connus. Quand en 1969, la nouvelle messe est arrivée. Tous les prêtres du monde entier, avant novembre 69, ou décembre 69, tous les prêtres du monde entier, l'Église catholique, disaient la messe traditionnelle. Du jour au lendemain, ils ont abandonné la messe. Ils ont accepté la nouvelle messe, pratiquement sans y dire. Quelques prêtres âgés qui ont réagi, c'est tout. Pourquoi? Ils avaient perdu l'amour de la messe. Quand Paul VI a supprimé le breviaire catholique, avant la suppression des breviaires catholiques par Paul VI, tous les prêtres du monde entier disaient leur breviaire tous les jours. Un jour, Paul VI dit, vous n'êtes plus obligé de dire le breviaire catholique, il n'est plus obligatoire. Du jour au lendemain, pratiquement tous les prêtres, sauf les rares prêtres de la tradition, ont abandonné leur breviaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui manquait? L'amour du breviaire. Quand après le Concile Vatican II, en 65, quand les évêques ont commencé à dire à leurs prêtres, qui étaient tous en soutane partout dans le monde entier, vous n'êtes plus obligé de mettre la soutane. Ils ont tous enlevé pratiquement du jour au lendemain, sauf quelques vieux prêtres. Pourquoi? Qu'est-ce qui manquait? L'amour de la soutane. Vous voyez, c'est une preuve de ce que j'appelle, de ce que les pères de l'Église appellent ce dégoût des choses spirituelles. Dégoût de la messe, dégoût de la soutane, dégoût du bréviaire pour les prêtres. Et du coup, l'âme devient comme paralysée. À ce moment-là, le démon peut faire ce qu'il veut. Et comme l'explication des pères de l'Église est tellement importante pour comprendre toutes ces choses-là. Et notre Seigneur Jésus-Christ va donc s'approcher de ce pauvre paralytique et les pères de l'Église font remarquer qu'il va donner trois ordres. Levez-vous, prenez votre grabat, rentrez à la maison. Trois choses. À quoi correspondent ces trois ordres? Voilà ce que disent les pères de l'Église. Levez-vous, ça veut dire coupez-vous des choses qui vous maintiennent dans la paralysie. C'est-à-dire enlevez en vous les occasions prochaines volontaires de péché grave. Donc la paralysie représente, encore une fois, le dégoût des choses spirituelles. Remettez-vous à l'étude de vos catéchismes, remettez-vous à l'étude des choses sacrées pour justement remettre en votre âme l'amour des choses de notre Seigneur Jésus-Christ, des choses divines. Levez-vous, ça veut dire coupez-vous des liens qui vous empêchaient de développer votre âme. Comme un oiseau qui essaie de voler, qui ne peut pas voler parce qu'il a un fil attaché à sa patte. Il faut couper le fil, et si on coupe le fil, l'oiseau peut de nouveau voler vers le soleil. Vous voyez, ce sont des détails. Mais les paires de ligues, pour les paires de ligues, ce ne sont pas du tout des détails. Levez-vous, c'est ça. Ensuite, prenez votre grabat. Notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir donné l'ordre, levez-vous, la guérison physique se fait. Le paralytique qui était couché peut-être depuis des années, incapable de faire fonctionner ses membres pour se lever et marcher normalement, d'un seul coup, il est guéri, il peut se lever. Notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu lui dire, voilà, remercie Dieu, maintenant vous êtes guéri, rentrez chez vous. Il dit, rentrez chez vous, mais prenez votre grabat. Pourquoi ? Le grabat, c'est une espèce de lit. Donc il est obligé de prendre sur les épaules le grabat et rentrer chez lui. Qu'est-ce que représente ce grabat ? Mais c'est très intéressant de voir que tous les pères de l'Église disent la même chose. Dans ce grabat représente les conséquences des péchés déjà pardonnés. Notre Seigneur Jésus-Christ pardonne les péchés, ils sont terminés, ils ne sont plus là. Mais il y a la peine temporelle du péché à payer. Quand on a commis un péché, on va se confesser. Si on se confesse avec la contrition, avec l'accusation, avec la réparation, les péchés disparaissent. Mais il reste la peine temporelle des péchés pardonnés. Le bon Dieu nous demande de faire pénitence. Et si cette peine temporelle des péchés déjà pardonnés n'est pas effectuée ici-bas sur la terre, eh bien on sera obligé de passer un temps considérable au purgatoire, parce que le purgatoire est un lieu justement pour achever la purification qui aurait dû être faite ici-bas sur la terre, qui n'a pas été faite, parce que justement nous n'avons pas fait suffisamment attention à réparer, rattraper les péchés pardonnés. Le bon Dieu pardonne, mais il faut rattraper les conséquences des péchés, ce qu'on appelle la peine temporelle des péchés déjà pardonnés. Et donc, il faut accepter de faire pénitence. Et si nous ne faisons pas pénitence, eh bien, on n'arrivera pas à persévérer dans l'état de grâce. Donc, c'est ce grabat que le malade et le paralytique qui vient d'être guéri est supposé porter représente justement son changement de vie. Il doit changer de vie, mettre sur ses épaules la pénitence pour achever la purification de son corps. Et ce grabat représente aussi, donc, vous voyez, toutes les tentations que la personne justement fraîchement guérie par notre Seigneur Jésus-Christ va avoir à cause de sa vie passée. Imaginez quelqu'un, je ne sais pas moi, qui avait des tentations énormes, qui avait un problème, par exemple, quelqu'un qui avait tentation énorme de boire. Il est habitué pendant des années à boire. Avec la grâce du bon Dieu, il arrête de boire. Il fait une bonne confession générale, il arrête de boire. Il rentre chez lui, mais il va avoir la tentation pendant peut-être des années, de continuer de boire, à cause des péchés passés. Dans la vie de Sainte Marie d'Égypte, Sainte Marie l'Égyptienne était une prostituée qui a été convertie, je crois, par Saint Antoine ou Saint Paul Hermite. Je crois que c'est Saint Antoine Hermite. Eh bien, après sa conversion, qui était une véritable conversion, elle a eu pendant 17 ans une tentation terrible contre la pureté, à cause de sa vie passée. Et donc, il faut comprendre, c'est ça que nous demande le bon Dieu, je prends mon grabat sur mon dos, c'est-à-dire je porte les conséquences de mes péchés, donc pas se décourager. Souvent, quand je baptise un adulte, je préviens les adultes en disant, attention, après le baptême, vous risquez d'avoir plus de tentations qu'avant, parce que le démon va se venger, il n'est pas content des baptêmes. Il y a horreur de voir une personne qui se convertit. Donc, quand je vais me confesser après peut-être de gros péchés, évidemment, c'est une conversion, ne démoigne pas les conversions. Donc, après la confession, une fois que l'âme a été guérie, il ne faut pas s'étonner si le démon, évidemment, se venge en essayant de décourager la personne qui vient de se convertir par le souvenir de ses péchés passés. Et on voit ça chez tous les saints, les saints convertis. Regardez par exemple la difficulté qu'a eu saint Augustin à se convertir à cause de sa vie de patachon qu'il a menée pendant longtemps. Eh bien, il voyait quand il pensait à demander le baptême à saint Ambroise, évêque de Milan, qu'il formait déjà au baptême, eh bien, il avait cette tentation terrible. Toutes les femmes avec lesquelles il avait eu des histoires qui revenaient pendant ses rêves, pour essayer de lui dire, mais comment vas-tu faire? Comment vas-tu pouvoir vivre sans nous? Comment vas-tu pouvoir couper avec tous ces plaisirs qui ont été les tiens pendant des années? Et ça a beaucoup gêné saint Augustin jusqu'au moment où il a été baptisé. Enfin, troisième ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, premier ordre, lève-toi, deuxième ordre, prends ton grabat, troisième ordre, rentre chez toi. Où est le chez-soi du catholique? Où est le chez-nous du catholique? Chez-soi, rentre chez toi, ça veut dire quoi? Rentre chez toi, ça veut dire mets-toi sur la route du chemin du paradis. Notre maison, là où le bon Dieu nous attend, c'est le paradis. Et c'est là où il faut, sur la route duquel il faut se mettre, si vous voulez, pour pouvoir justement persévérer. Après la conversion, après une bonne confession, on se met sur le chemin du paradis, donc on rentre chez soi. Et on voit toute cette richesse, je vous explique ces choses-là pour vous montrer la richesse des enseignements des pères de l'Église. Quel dommage de voir que beaucoup de nos catholiques ne connaissent absolument pas toutes ces richesses, n'ont pratiquement jamais entendu parler du sens mystique de l'Évangile donné par les pères de l'Église. On voit notre Seigneur, c'est le dernier point que je voudrais expliquer, notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, a fait 3 miracles en ce jour. Il n'y a pas qu'un, il y en a 3. Premier miracle, nous font remarquer les pères, c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ dit aux paralytiques, vos péchés sont pardonnés. Les gens qui sont autour, les pharisiens et les publicains, sont scandalisés. Ils disent dans leur âme, mais qui est cette personne? Comment peut-il prétendre pardonner les péchés? Il y a Dieu seul qui pardonne les péchés. Et notre Seigneur Jésus-Christ fait un premier miracle en leur montrant qu'il peut lire dans les âmes. Et pourquoi gardez-vous en votre cœur ces pensées contre moi? Pour vous prouver que je peux pardonner les péchés, maintenant je guéris le corps et guéris le corps. Deuxième miracle, la guérison du corps. Troisième miracle, la guérison de l'âme. Évidemment, le miracle le plus important, c'est le troisième, mais c'est celui qui ne se voit pas. Alors demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, justement, de nous aider à comprendre toutes ces choses-là. Nous sommes tous un peu des paralytiques, des degrés de paralysie divers, variés, nous sommes tous un peu des paralytiques. Eh bien, on est gisant sur notre lit de péché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être porté vers notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas le faire nous-mêmes, alors on demande à des amis de venir porter notre lit jusqu'au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les pères de l'Église font remarquer que ces 4 porteurs qui portent le paralytique se sont gravés jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ représentent les prêtres. Le rôle du prêtre, c'est de porter les âmes jusqu'au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le prêtre dit « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » dans l'absolution sacerdotale, c'est en fin de compte notre Seigneur, bien sûr Dieu, qui pardonne les péchés, utilisant le prêtre comme un instrument. Donc le rôle du prêtre, c'est d'amener notre Seigneur, le malade, à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui remplit ce rôle, même bien mieux que le prêtre, c'est notre Sainte Vierge Marie. Le rôle de notre Sainte Vierge Marie, mes chers frères, le rôle de Notre-Dame, c'est justement elle aussi de porter l'âme du prêtre et l'âme des malades que nous sommes tous par le péché, les amener à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle se met au pied de la croix, je vous l'ai expliqué souvent, et c'est elle qui maintient l'âme au pied de la croix. Donc le prêtre amène l'âme au pied de la croix, il y a Notre-Dame, qui est là pour maintenir l'âme au pied de la croix. Parce qu'évidemment, quand on voit la croix, on n'a qu'une chose, qu'une envie, c'est se sauver en courant. Donc la Sainte Vierge Marie est au pied de la croix pour maintenir l'âme au pied de la croix et obtenir par son intermédiaire, parce que tout passe par elle, le pardon des péchés. Donc demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider à lutter contre cette paralysie de l'âme, de lutter contre ce dégoût des choses spirituelles. Et si nous sentons en nous poindre ce dégoût des choses spirituelles, eh bien, luttons contre ça d'abord pour une bonne confession, mais aussi par l'étude. L'étude du catéchisme, l'étude de toutes ces grandes vérités que j'essaie de vous expliquer petit à petit chaque dimanche, pour que justement cette étude nous donne, nourrisse en quelque sorte notre âme, pour que notre âme n'ait plus qu'une seule envie, c'est de se retrouver un jour au ciel avec notre Seigneur pour toute l'éternité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.